France Info.
Bonsoir, le dénouement entre les 28. Nous allons à Bruxelles dans un instant. La controverse sur le Mercosur vers un épilogue pour Vincent Lambert et des coupes sombres chez Conforama. Voilà le menu, c'est dans les informés avec vous, Marion Mourgue. Bonsoir.
Bonsoir.
Grand reporter au service politique du Figaro. À mes côtés également, bonsoir Neila Latrousse, rédactrice en chef Maghreb et Moyen-Orient de Jeune Afrique. Également, bienvenue à Yasmina Jaffar. Bonsoir Yasmina, bonsoir. Journaliste fondatrice du site laruchemedia.com, et j'accueille Franck Tapiro. Bonsoir Franck.
Bonsoir.
Chief Emotional Officer de Datacalab, start-up d'intelligence artificielle en brain tech. Vous nous direz de quoi il s'agit tout à l'heure quand même. Nous sommes ensemble
sans
jusqu'à
manger.
21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Fumée blanche, un accord a enfin été trouvé entre les dirigeants de l'Union européenne sur les nominations aux postes clés. Le président Emmanuel Macron, qui s'exprime en ce moment même, parle d'une décision positive et consensuelle. Bonsoir à vous, Angélique Bouin. Bonsoir Angélique.
Bonsoir.
Vous êtes correspondante permanente de Radio France à Bruxelles. Angélique, deux femmes se retrouvent en haut de l'affiche.
Oui, c'est une première, une Allemande et une Française à la tête des deux institutions les plus influentes de l'Europe. C'est un double signal, renouvellement et parité, et puis signal politique fort avec ce couple franco-allemand renforcé, les dirigeants Merkel et Macron ont le sourire ce soir. L'actuelle ministre de la Défense allemande, Ursula von der Leyen, succède donc à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission. C'est une fidèle d'Angela Merkel, conservatrice. Elle a été plusieurs fois ministre. C'était une exigence de la droite européenne à arriver en tête des élections, que ce soit donc quelqu'un de droite, mais c'est une modérée, ce qui convient aux socialistes et aux libéraux. Une Allemande, donc, ce qui ouvrait la voie à la France, avec Christine Lagarde pour la tête de la Banque Centrale Européenne. L'actuelle patronne du FMI a laissé plutôt un bon souvenir ici à Bruxelles lorsqu'elle participait activement aux négociations pour sauver la Grèce. Elle est appréciée, dit-on, de la chancelière. Le premier ministre libéral belge francophone, Charles Michel, un proche d'Emmanuel Macron, dirigera désormais le Conseil européen, cette instance qui réunit les dirigeants. Un Belge, c'est un habitué des compromis dont on a bien besoin ici pour faire avancer les sommets. Il fallait ensuite servir les socialistes qui ont vu leur passé sous le nez la Commission européenne dimanche soir. Josep Borrell, le ministre des Affaires étrangères espagnol, incarnera désormais la diplomatie européenne. Il devient haut représentant à la place de Federica Mogherini. On ne connaît pas encore celui ou celle qui dirigera le futur Parlement. Il doit être élu demain par ses pairs pour respecter les équilibres. On évoque un Européen de l'Est.
Voilà donc ce casting avec vous. Merci Angélique Bouin, merci à vous en direct de Bruxelles, dont vous êtes la correspondante permanente de Radio France. Nous écouterons dans un instant un extrait de l'allocution du président Emmanuel Macron, qui s'exprime toujours en ce moment même. Marion Mourgue, est-ce que quelque chose est en train de changer à la tête de l'Union européenne ?
Oui. Le système pour choisir les dirigeants n'était pas celui qui était prévu depuis des années. Il y avait des règles tacites et on est sorti de ces règles tacites où, en principe, le candidat qui était promu par le PPE, qui est le groupe majoritaire, avait forcément un poste. Là, on a vu que depuis quelques jours, toutes les cartes étaient rebattues et que finalement, les favoris qui étaient annoncés depuis des semaines, comme Manfred Weber, n'avaient rien. Christine Lagarde et la ministre de la Défense n'étaient pas prévues dans le casting. Donc, on renouvelle un peu les pratiques.
Alors, deux femmes pour diriger au moins au poste clé cette Europe, Neila Latrousse. Ursula von der Leyen, il va falloir s'habituer à prononcer ce nom allemand, une proche d'Angela Merkel et Christine Lagarde, que nous connaissons mieux ici en France. Est-ce que cela change le visage de la Commission, de l'Union en général ?
Pas fondamentalement. Quand Christine Lagarde, que nous connaissons un peu plus peut-être en France qu'ailleurs en Europe, quoique, incarne une orientation assez claire dans ce qu'elle a pu faire au niveau du FMI, dans ce qu'elle a pu faire précédemment au ministère des Finances. C'est elle qui, il y a quelques jours, mettait en garde, en tout cas c'est l'institution qu'elle préside, qui mettait en garde la France pour ses déficits excessifs, pour une dette qui menaçait à moyen terme ce pays, l'équilibre financier. À qui elle demandait de faire des réformes structurelles. Bon, vous me direz, son mandat à la Banque Centrale Européenne ne sera pas celui-là. Elle sera vraiment sur des aspects de politique monétaire. Mais il sera intéressant de voir comment se fait la jonction entre ce qu'elle a pu défendre au niveau du FMI et ce qu'elle défend au niveau de la BCE. Quant à l'ancienne ministre de la Défense allemande, proche d'Angela Merkel, au fond, elle hérite de la Commission européenne. C'est un bon compromis pour les Allemands qui souhaitaient garder la main sur cette institution. Là encore, la question est de savoir, est-ce que la Commission européenne dans son ensemble changera d'orientation? Comment est-ce que ce consensus qui a pu être trouvé sur les têtes d'affiche pourrait ou non être trouvé sur les politiques à mener? Et là, je suis beaucoup moins sûre qu'un changement bouleversant soit à attendre.
Alors, Ursula von der Leyen, ministre des Armées en Allemagne, ça risque de marcher assez droit pour ce qui est de l'Europe. Yasmina Jaffar, est-ce que vous êtes d'accord avec Neyla Latrousse? Au fond, il n'y a pas tant de changements que cela. Ce sont des personnalités qui sont très européennes, au fond.
Non, il y a un changement qui est réel. Ce sont des femmes, et c'est inédit, et c'est très très bien. Et je trouve ça intéressant que nous ayons, nous, Français, une femme à ce poste-là, précisément. C'est peut-être plus intéressant pour nous qu'elle soit à la tête de la BCE que de la Commission. Mais ce qui est intéressant, c'est la méthode, le changement. Emmanuel Macron, depuis quelques semaines, avait déjà dit « je vais changer les choses, je vais changer la méthode » parce qu'il y a quelque chose d'un peu trop évident, d'habituel avec l'Allemagne et les décisions. Manfred Weber avait été discrédité absolument partout et tout le temps. Donc, en effet, Mme Merkel arrive quand même à sauver un petit peu les marrons du feu. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'arrogance française, pour une fois, a servi à imposer les choses autrement, et je trouve ça très intéressant.
Franck Tapiro. Alors, l'arrogance, c'est plutôt l'engagement, parce qu'il fallait vraiment que le tandem franco-allemand sauve la face. Mm-hmm. Et en 24 heures, il l'a fait. Il le fait plutôt d'ailleurs favorablement, d'abord avec la présence de deux femmes, et c'est pas uniquement parce que ce sont deux femmes, mais d'abord parce que ce sont deux grands talents qui l'ont montré d'ailleurs dans deux postures différentes. C'est vrai que ce serait intéressant de voir en termes de contexte, bien entendu, comment Christine Lagarde va évoluer, mais quand je vois le contexte fait le talent, vous savez très bien, donc à un moment, on ne pourra pas dire qu'elle est en contradiction si elle fait demain à la BCE des choses qui n'étaient pas peut-être non totalement ancrées dans son job d'avant.
Allez, 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Le comité onusien pour le droit des personnes handicapées appelle en urgence la France à maintenir les soins apportés à Vincent Lambert. C'est ce que font savoir ce soir les avocats de ses parents. Le CHU de Reims a commencé ce mardi l'arrêt des traitements accordés à Vincent Lambert, plongé dans un état végétatif depuis plus de 10 ans. C'est ce que lui permet la décision de la Cour de cassation rendue vendredi dernier. Deux randonneurs hospitalisés ce soir au Puy-en-Velay après avoir subi des centaines de piqûres d'abeilles. La scène se déroule sur la commune du Brignon, en Haute-Loire. Un homme de 72 ans est très gravement blessé. La femme qui l'a accompagné plus légèrement touchée. Inviter Marion Maréchal à l'université d'été du MEDEF n'était pas une erreur, explique sur France Info le président du mouvement, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Il s'agissait, dit-il, de confronter l'ancienne députée FN à la faiblesse du programme économique porté aujourd'hui par le Rassemblement National. Des transferts aujourd'hui sur la planète football. Le Lyonnais Tanguy Ndombele s'engage avec le club anglais de Tottenham pour 60 millions d'euros. L'ancien joueur du PSG, Adrien Rabiot, signe lui à la Juventus de Turin. Il était écarté du groupe parisien depuis décembre dernier.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Le président Emmanuel Macron à Bruxelles s'exprime toujours devant la presse après donc le dénouement de cette difficile, on va dire, accouchement du casting des 28 des top jobs au sein de l'Union européenne. Pourquoi ça a été si dur, Marion Mourgue?
Déjà parce que la France et l'Allemagne n'arrivaient pas à s'entendre, et on verra si cet épisode laisse des traces, parce que là on a l'impression que tout va bien et que tout s'est arrangé entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, mais on a aussi l'impression que chacun a voté contre le candidat de l'autre, c'est-à-dire que Emmanuel Macron ne voulait surtout pas du candidat allemand qui était Manfred Weber, et Angela Merkel ne voulait surtout pas de Michel Barnier qui aurait pu être soutenu par la France. Donc on arrive à un compromis, mais on n'est pas sûr que ce moteur franco-allemand qui est quand même déterminant dans la construction européenne ne va pas battre un peu de l'aile.
Alors justement, Franck Tapiro, vous parliez de deux talents féminins, mais est-ce que Ursula von der Leyen, qui a sans doute beaucoup de talent, est plutôt une solution de compromis pour l'Europe? Est-ce que cette Europe-là n'accouche que de compromis?
Encore une fois, il est trop tôt pour se prononcer. Aujourd'hui, c'est vrai que entre ce qui a été dit et fait hier et ce qui a été décidé aujourd'hui, on peut imaginer que c'était, on va dire, les deux candidats qui posaient le moins de problèmes à l'ensemble des deux camps. D'ailleurs, c'est pour ça que l'un a voté contre le candidat de l'autre, c'est qu'il pensait que l'un ferait penser la balance un peu trop de son côté. Laissons-leur un peu de temps, hein. On l'a dit, même si, encore une fois, le contexte de leur carrière leur a donné sûrement une image particulière, je pense qu'aujourd'hui, avec les top jobs qu'elles ont aujourd'hui, elles agiront différemment. Donc, encore une fois, aujourd'hui, OK, on peut se dire c'est un compromis, on verra dans un mois ou deux si finalement, in fine, ça n'a pas été, de façon un peu hasardeuse, la meilleure façon d'avoir deux talents qui peut-être vont être beaucoup plus efficaces qu'on l'imagine et qui sont peut-être déjà en train d'imprimer une marque un peu plus forte que celle que les deux candidats présumés qui ont été jetés au premier tour n'auraient pu faire. Encore une fois, vous savez, ce que je dis, c'est que le contexte, surtout le contexte européen aujourd'hui, puis le contexte aussi de ce tandem franco-allemand, on l'a vu, qui est pour moi usé. C'est pas qu'il ne marche pas, je pense qu'il est usé. Usé d'abord, peut-être par cette durée, et puis surtout cette absence peut-être de vision commune. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment ces deux personnes arriveront à peut-être réinjecter une nouvelle vision européenne commune.
Alors Neyla Latrousse, couple usé sur le principe ou c'est de par les personnalités qui le composent encore aujourd'hui? Je dis encore parce que Angela Merkel est en fin de parcours.
Un peu plus sur le principe, moi j'ai été frappé dans les discussions qui ont cours depuis la fin de semaine dernière, de voir qu'en fait les intérêts nationaux revenaient un peu sur le devant de la scène. C'est-à-dire que le discours européen ces derniers temps, c'était un discours qui prenait le multilatéralisme, qui prenait cette Union européenne, coalition des intérêts communs. Et en réalité, ce que l'on voit depuis le début du Conseil européen, c'est que chaque pays assume pleinement être dans la promotion de son intérêt national. Et c'est peut-être même un peu gênant parce que ce bloc pro-européen a fait campagne justement en expliquant que les forces populistes étaient une menace à la cohésion européenne parce que c'était des partis mortifères qui prônaient justement les particularités nationales. Je regrette un peu que ce soit fait de cette façon-là, même si évidemment aujourd'hui on accouche d'une solution qui semble satisfaire tout le monde, mais je regrette un peu cette image-là qu'on a pu donner pendant ces dernières heures.
Vous dites que c'est une image un petit peu négative qui abîme peut-être un peu l'image de l'Europe. Yasmina Jaffar, Emmanuel Macron, le président de la République, vous semble tenter de prendre une forme de leadership européen. Il en rêve.
Il essaye depuis 2 ans. Depuis la campagne, il n'a pas été entendu, mais Madame Merkel lui a tourné les talons et continue à le faire. Et c'est assez compliqué pour lui d'aujourd'hui d'arriver en leadership parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. C'est un des sujets les plus importants pour lui. Mais en tout cas, il a réussi aujourd'hui, c'est d'installer quand même une Française à la tête d'un poste assez important, même s'il aurait préféré Michel Barnier. De toute évidence, on est passé à côté d'un consensus mou et c'était absolument ce qu'il ne voulait pas. Et quand hier, il prend la parole assez énervé en disant, très agacé, c'est assez inédit d'avoir un homme d'État qui parle comme ça en disant c'est une mauvaise image, nous avons des réunions interminables qui ne servent à rien. C'est une façon, en effet, de reprendre le leadership, mais il parle à l'intérieur, je suis complètement d'accord avec vous, il parle à l'intérieur de cette idée de dire aux Français, je reprends la barre. En plus, Mme Merkel ne va pas très bien, est en fin de parcours. Oui. Au-delà de ses problèmes de santé, etc., il y a une fin allemande, et si la partie doit être reprise, ça sera par les Français.
Marion Mourgue.
On a déjà un mort, en tout cas, dans cette histoire. Pour l'instant, c'est Michel Barnier. C'est-à-dire que nombre de...
Mais oui, vous avez raison. C'est dommage.
Reconnaissaient ses qualités en France, mais aussi à l'étranger.
Il a un parcours, il a une expérience.
Il est victime d'un jeu d'influence. Il est français au mauvais moment dans la construction européenne. C'est pas forcément ça qui pesait.
C'est génial.
C'est une jolie formule.
C'est une super formule.
Mais c'est un peu ça qui paye, alors que c'est vrai qu'il est avec beaucoup d'expérience.
Il a pris beaucoup d'élan pourtant. Ça fait des années qu'il s'est battu, il s'est engagé. Enfin, il était vraiment, pour moi, totalement dans son ancrage. Et c'est vrai que c'est un peu, il y a une forme d'injustice, il faut le dire, parfois en politique c'est un peu cruel, mais là en plus il y a une forme d'injustice, je pense que d'abord c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le job, et je pense que c'était son tour.
Voilà. Allez, en attendant d'entendre un premier extrait de la déclaration du chef de l'État Emmanuel Macron, on me fait signe que nous avons déjà un sonore d'Emmanuel Macron, et puis écoutez, on va l'entendre tout de suite, allez c'est parti. Si l'on peut entendre le président.
Pour la première fois. En effet, la Commission européenne et la Banque centrale européenne sont dirigées également par des femmes. Ce profond renouvellement reflète d'une part les nouveaux équilibres politiques qui ont émergé suite aux élections européennes et sera à même d'appliquer l'agenda stratégique que nous avons défini puisque toutes ces personnalités épousent cet agenda et ses grandes lignes. Les dernières heures ont été déterminantes pour construire cet accord positif.
Naïla Latrousse, agenda stratégique. Il souligne, pour la première fois, dirigé par des femmes, comme si c'était pour le chef de l'État quelque chose de nouveau, d'inédit, censé peut-être relancer un peu cette idée européenne, cette Union européenne qui patine depuis quelque temps.
En tout cas, ça, c'est un beau symbole, mais vous allez peut-être trouver que je suis excessive, mais je trouve que tant qu'on continue à trouver ça formidable qu'il y ait de la parité, c'est qu'au final, on n'est pas encore dans la perception que c'est quelque chose de tout à fait normal. Cela étant dit, donc, c'est évidemment pas contre vous, Jean-François.
Non, la parité est respectée sur le bateau à chaque fois, chaque soir.
Non, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est effectivement sur l'agenda, sur le fond des réformes, il y a une certaine cohérence entre Christine Lagarde, Charles Michel, qui lui est également un libéral, qui a marqué son passage à la tête du gouvernement belge par un certain nombre de réformes pour libéraliser le secteur public, pour vendre des parts dans un certain nombre d'entreprises détenues par l'État, d'entreprises nationales, etc. Donc la feuille de route est assez clair et en gros l'Europe ne changera pas d'orientation.
Vous êtes assez pessimiste ce soir.
Je suis pas
très prudente.
Alors, pour le coup, pour moi, libéral n'est pas un gros mot. Je ne suis pas du tout pessimiste, mais en tout cas ça donne une orientation. C'est une orientation définie par Emmanuel Macron, qui sera incarné par des personnalités qui ont porté cet agenda libéral. Ça dit simplement, à mon sens, que dans les leçons qui ont été tirées du scrutin européen, c'est que la possibilité de former une coalition libérale suffit à mettre en œuvre une politique libérale, quand bien même la gauche réexisterait ici ou là, ou quand bien même des populistes nationaux essaieraient de contrarier cet agenda.
Franck Tapiro.
Juste revenir sur le côté de la parité. Hein. C'est une parité, mais de second tour, n'oublions pas. Hein. C'était de mai qu'au démarrage.
Oui.
Donc c'est bien de s'émerveiller qu'il y a deux femmes, ça arrange beaucoup de gens. Pourquoi ça arrange beaucoup de gens? Au départ, c'était deux mecs, ils sont complètement plantés. On a commencé à révéler, à mettre un peu en exergue ce temps d'amuser, puis ces méthodes finalement qui ne fonctionnent plus. Et le lendemain, ça arrange tout le monde qu'il y a deux femmes. Donc, encore une fois, j'aurais préféré que ce soit au premier tour, que c'est deux femmes.
Reconnaissez qu'on revient de loin quand même.
On revient de loin, mais encore une fois, c'est pas parce que ce sont deux femmes que c'est une bonne nouvelle, c'est parce que ce sont deux grands talents. Et j'en ai marre, moi, la parité, je sais que je milite assez pour ça, puisque n'oublions pas qu'en France, la parité dans les conseils d'administration, c'est 60-40, c'est pas encore 50-50. Donc à un moment, on parle de parité, mais faisons-le vraiment. Alors soyons paritaires.
En tout cas, au premier tour,
vraiment faire une fête.
Au premier tour, j'avais une tendresse particulière moi pour Margaret Vestager. Voilà, donc c'est dommage, elle y est pas, mais elle y sera peut-être la prochaine fois. Elle avait inspiré le personnage de Borgen, mais au-delà de ça, c'est une femme avec un talent incroyable et elle méritait un premier tour et elle méritait d'y être même au deuxième et au troisième tour.
20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Antibes, Calais, Paris, Montauban, autant de villes françaises où des magasins Conforama vont fermer leurs portes. 32 au total vont devoir le faire. 1900 postes supprimés au total dans le pays. La direction du distributeur de meubles confirme ce soir ce plan social chez Conforama. Elle le justifie par la nécessité de réduire ses pertes et retrouver l'équilibre. Le Parlement adopte définitivement la loi anti-fessée. Cela après un ultime vote à main levée au Sénat. Cette interdiction de violence physique contre les enfants figurera en première page de leur carnet de santé. 11 départements en vigilance orange aux orages, du Cantal à la Haute-Savoie, en passant par le Gard et les Alpes de Haute-Provence. La nuit dernière, de violentes intempéries ont balayé l'Auvergne-Rhône-Alpes avec de la grêle, des vents violents. 14 500 foyers restent ce soir privés d'électricité. C'est le premier pays européen à le faire. Les députés autrichiens ont voté aujourd'hui l'interdiction totale du glyphosate. Cet herbicide est jugé comme probablement cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé. Cette substance, on la retrouve dans le Roundup de Monsanto, firme américaine condamnée à 3 reprises devant la justice aux États-Unis.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Emmanuel Macron s'exprime toujours devant la presse à Bruxelles. Lui qui était ressorti très agacé, le mot est faible, après la première tentative de trouver le bon casting, pardon pour cet anglicisme, au sommet de l'Union européenne. En tous les cas, la nouvelle équipe va devoir se pencher sur un dossier particulièrement brûlant, l'accord de libre-échange passé entre l'Union européenne, l'équipe d'avant, et le Mercosur, qui fait donc des remous à Paris particulièrement. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, interpellé lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.
Il y a eu une accélération soudaine. Et je ne suis pas certain, même dans les accélérations soudaines, que la précipitation soit toujours bonne conseillère. Et donc, même si les dispositions que l'on croit connaître de cet accord offrent des opportunités économiques importantes à nos exportateurs, il ne faut pas le négliger. Il n'empêche que, à cet instant, monsieur le député, la France demande à voir.
Marion Mourgue, vous avez vu cette prudence de Jean-Yves Le Drian à l'Assemblée nationale. C'est un accord qui est signé entre la Commission, entre les pays qui composent le Mercosur, c'est le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay. Accord de libre-échange, on va dire, entre l'Europe et un pays de l'hémisphère sud. Et un accord qui pose problème. Et là, soudain, le gouvernement français fait marche arrière.
On voit le gouvernement et on voit différentes interventions de ministres assez embarrassés entre ce que dit Jean-Yves Le Drian, c'est-à-dire la possibilité d'opportunités économiques et d'élargir le marché, et puis la crainte de risques sanitaires, puisque finalement c'est ça qui inquiète tout le monde, c'est qu'il y ait des produits qui ne soient pas aux normes françaises et européennes, alors que les normes françaises et européennes sont très strictes et encadrent énormément de choses. Et on voit bien que l'opinion publique est plutôt assez réfractaires, les agriculteurs aussi. Donc ça peut être ce type de sujet qui sont des allumettes et qui électrisent le débat et que le gouvernement, manifestement, n'arrive pas très bien pour l'instant à sentir. On voit un embarras.
Oui, Néla Latrousse, alors si je puis dire, si ça vient sur la table un beau jour, mais je crois que c'est mal barré pour cet accord avec le Mercosur. Il y a des chiffres extravagants. Les pays sud-américains pourront exporter en Europe 99 000 tonnes de bœuf, 100 000 tonnes de volaille, 180 000 tonnes de sucre vers l'Union, donc, et avec forcément, surtout en production en matière agricole, des standards qui ne sont pas les mêmes que chez nous.
On avait le même problème avec le CETA, qui a causé tout un tas d'embarras dans les derniers mois.
Avec le Canada. Hein.
Avec le Canada. Oui. En réalité, moi, sur ces accords de libre-échange, j'ai l'impression déjà qu'à partir du moment où le terme accord de libre-échange est posé sur la table, ça fausse un peu les termes du débat. Et je le redis, pour moi, le libéralisme n'est pas un gros mot. Il y a un accord similaire qui est signé avec la Tunisie, entre l'Union européenne et la Tunisie, l'ALECA, qui permet notamment à l'Union européenne d'écouler tout un tas de produits avec des droits de douane préférentiels sur le marché tunisien. Le même traité est signé avec le Maroc. Ça n'a posé aucun problème parce qu'on est sur des flux qui vont dans un seul sens. Au Brésil, aujourd'hui, on entend les agriculteurs dire que le principe de précaution pourrait leur être opposé de manière systématique et se demander si, au final, ils ont eux aussi intérêt à s'engager dans un traité pareil. Les règles du commerce international aujourd'hui veulent qu'on aille vers moins de droits de douane. Je dis ça, les États-Unis que je mets de côté avec la Chine. Mais grosso modo, on est dans un monde où on commerce, où les échanges se font à des rythmes soutenus, où on essaye d'avoir des gains de productivité qui peuvent permettre soit de dédouaner des produits plus facilement, soit d'avoir un circuit administratif et de taxes qui soit moins important. Bon, négocions au mieux, mais ne levons pas les herses de manière pavlovienne.
Franck Tapiro, vous comprenez que cet accord puisse susciter une certaine forme d'émotion, notamment chez nos agriculteurs, par exemple.
Oui, en termes de sidérurgie, en termes d'agriculture, bien entendu, il y a toujours des fantasmes. Mais derrière cela, moi, enfin, j'ai lu une information quand même qui, à mon avis, n'est pas moindre et minime là-dessus, c'est le fait que Bolsonaro serait prêt à remettre aussi en question les accords de Paris. Et je pense que derrière aussi, c'est une forme de pression. Derrière, je pense que les accords de libre-échange font partie du contrat, mais ils se cachent, je pense, derrière une autre raison. C'est peut-être aussi pour contraindre Bolsonaro à éviter de dire du mal des accords de Paris. Donc je pense que c'est évidemment comme une Winchester qu'on mettrait entre nous et le Mercosur, mais de dire ok, on va ouvrir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le libéralisme n'est pas
un mot,
mais en revanche, remettre en question l'accord de Paris, ça, on ne sera pas capable de le faire. Donc je pense que voilà, c'est peut-être un chiffon rouge, peut-être un message d'alerte. Et vous allez voir, je pense que si ça se fluidifie, c'est parce que Bolsonaro aura peut-être donné des gages pour ne pas mettre en question cet accord.
Et Bolsonaro promet une traçabilité exemplaire, sauf que, en tout cas, des gestes en ce sens, sauf que c'est très compliqué de tracer la viande dans un pays où les sols sont absolument saturés. Et je crois que même les Brésiliens sont pas heureux parce qu'il y a un problème de sidérurgie et d'acier là-bas. Donc, il y a des mécontents absolument partout pour exporter leurs produits. Mais il y a aussi peut-être une volonté de montrer de la part de Macron, en tout cas des pays occidentaux, une volonté d'être entendu par les pays du Sud. Mais auront-ils la même fermeté quand il s'agit de la Chine, de Poutine ou je ne suis pas convaincue.
Rien n'est moins sûr, oui.
Voilà. C'est surtout que ce traité arrive à contre-courant. Alors on sait qu'il a pris du temps, mais là, en France, en tout cas, il y a une demande d'une meilleure, consommation, qui soit plus proche des gens, qui soit avec moins de pesticides, etc.
Et là, du fait de ce traité, on aurait presque l'inverse. C'est quand même ça qui inquiète aussi les consommateurs.
Allez, je vous rappelle que ça y est, les 28 ont enfin trouvé le bon casting pour diriger l'Union européenne. Donc Ursula von der Leyen, une Allemande qui était ministre des Armées, qui va diriger la Commission, et Christine Lagarde qui, elle, va quitter le Front monétaire international pour diriger la Banque centrale européenne. D'ailleurs, elle quitte le FMI rapidement, elle le met entre parenthèses. Nous allons revenir sur ces nominations. Il n'y a pas que ces deux personnes d'exception, il y a d'autres nominations aussi sur la table. Dans la deuxième partie des informés de France Info, le président de la République, lui, s'exprime toujours devant la presse à Bruxelles. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite.
Chérie, t'es prêt à reprendre des couleurs ?
Oh que oui !
Alors on y va. Maillot, lunettes, crème solaire ?
Ok.
Les billets de train ?
Prêt.
La réservation d'hôtel ?
Y avait plus d'encre pour imprimer.
Mais je t'avais dit de prendre le forfait HP Instant Ink.
L'abonnement de ta sœur pour imprimer gratuitement jusqu'à 15 pages par mois ?
Bah oui, HP Instant Ink. Tu imprimes gratuitement jusqu'à 15 pages par mois et les cartouches sont livrées avant qu'on soit en panne.
HP Instant Ink, le premier forfait d'impression sans engagement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/instantink.
Quand il fait chaud, on aime se calfeutrer à l'intérieur, volets fermés. Mais l'air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur. Alors procurez-vous un ventilateur purificateur Dyson PureCool. Il vous rafraîchira avec de l'air purifié, en éliminant plus de 99% des particules aussi fines que les virus, pour que vous ne les respiriez pas chez vous. Dyson PureCool. Ventile un air purifié, pas un air pollué. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
La météo, les prévisions avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Encore des orages ce soir, parfois forts entre le Massif central et les Alpes. De la grêle, de fortes rafales de vent possibles. Ça se calmera cette nuit. Demain, sur la moitié sud, on commencera la journée sous le soleil. Juste des nuages bas pour le sud-ouest, vite oublié. L'après-midi, des orages se développeront sur les Pyrénées. Même chose sur les Alpes et le Massif central, avec de la grêle possible. Entre les Charentes, le centre et la Franche-Comté, des éclaircies. Un petit risque d'ondées seulement le matin. Et puis au nord de la Loire, jusqu'à l'Alsace, du soleil. Le thermomètre affichera des valeurs en hausse, 12 à 24 degrés le matin. L'après-midi, 20 à 24 degrés près de la Manche. Ça montera entre 26 et 33 ailleurs. Et toujours un cran au-dessus sur le sud-est avec 30 à 36 degrés.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et 30 minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Julien Langlais.
Bonsoir Jean-François. Après deux jours et une nuit de négociations, les chefs d'État et de gouvernement se sont donc finalement entendus sur les postes clés au sein de l'Union. Du chapeau sont finalement sortis depuis Bruxelles la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, à la présidence de la Commission, la patronne du FMI qui s'est d'ailleurs mis en congé de sa fonction, et ancienne ministre Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne, le Premier ministre belge Charles Michel à la présidence du Conseil européen, et enfin le ministre socialiste espagnol Josep Borrell comme chef de la diplomatie européenne. Emmanuel Macron s'est exprimé et s'exprime encore d'ailleurs en conférence de presse. Il a réagi à ces nominations.
Les critères de compétence, d'expérience, de parité et d'équilibre politique et géographique ont ainsi été remplis par le Conseil. Je me félicite ainsi de la constitution d'une équipe nouvelle, intégralement francophone. Pour la première fois, en effet, la Commission européenne et la Banque centrale européenne sont dirigées également par des femmes. Ce profond renouvellement reflète d'une part les nouveaux équilibres politiques qui ont émergé suite aux élections européennes et sera à même d'appliquer l'agenda stratégique que nous avons défini, puisque toutes ces personnalités épousent cet agenda et ces grandes lignes.
Emmanuel Macron, donc depuis Bruxelles. Jean-François Aquili dans Les Informés revient dans un instant sur ces nominations et cette déclaration du chef de l'État. Alors que le médecin de Vincent Lambert a engagé aujourd'hui à Reims un nouvel arrêt des traitements de son patient en état végétatif depuis plus de 10 ans, l'ONU réitère aujourd'hui auprès de l'État français sa demande de maintien de son alimentation et de son hydratation à titre conservatoire. C'est un avis non contraignant. L'Assemblée nationale a voté définitivement en fin d'après-midi le projet de loi pour une école de la confiance. Il prévoit notamment l'école obligatoire des 3 ans. Ses opposants ont dénoncé une loi d'affichage, un texte fourre-tout qui fait peser, je cite, une forte pression sur les enseignants. Le dernier carré du mondial féminin de football à Lyon, première demi-finale ce soir au Parc Oel entre l'Angleterre et les États-Unis, c'est à 21h. On suivra cela en direct sur France Info. Et puis Lyon, capitale mondiale du foot féminin jusqu'à dimanche, et son club, l'Olympique Lyonnais, qui encaisse le plus gros chèque de son histoire avec le transfert à Tottenham de son milieu de terrain international français de 22 ans, Tanguy Ndombele, pour une somme de 60 millions d'euros et un maximum de 10 millions d'euros de bonus. 20h33 sur France Info, la deuxième partie des Informés, c'est avec Jean-François Aquili.
20h, 21h, France Info, les Informés, Jean-François Aquili.
Avec Marion Mourgue, grand reporter au service politique du Figaro, Neila Latrousse, rédactrice en chef Maghreb et Moyen-Orient de Jeune Afrique, avec Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice du site laruchemedia.com, et vous, Franck Tapiro, vous êtes Chief Emotional Officer de Data Calab. Vous nous en direz quelques mots à la fin de cette émission pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit précisément. Allez, nous revenons sur la nomination à la tête de l'Union européenne au poste clé de Ursula von der Leyen, qui va diriger cette Allemande, la Commission européenne, et de notamment Christine Lagarde, qui, elle, va quitter le FMI pour piloter la Banque centrale européenne. Je vous propose de réécouter un extrait de la déclaration du chef de l'État, qui s'est félicité du retour, en quelque sorte, du couple franco-allemand.
Je me félicite que, critère que j'avais posé 2 jours après les élections européennes, que nous puissions être efficaces et décider le plus rapidement possible, puisse in fine, malgré les attentes et les difficultés de dimanche et lundi, être rempli. En effet, jamais le Conseil européen n'avait désigné aussi rapidement l'équipe intégrale. Je rappelle qu'il y a 5 ans, nous avions mis plus de 3 mois à désigner en particulier le président du Conseil et le haut représentant.
Marion Mourgue, est-ce que le couple franco-européen, oui ou non, vous semble ce soir de retour? Parce que c'est vrai que la relation, depuis quelques mois, est largement distendue.
Vous voulez dire France-Allemagne?
Oui.
Oui, c'est distendu.
Franco-allemand.
Oui, c'est distendu, mais on verra si ça laisse des traces et si cet épisode est finalement constructif pour avancer dans la relation, sachant que Angela Merkel finit son mandat, donc Emmanuel Macron va pouvoir aussi poursuivre la relation avec quelqu'un d'autre après. C'est peut-être ça qui est en train aussi de se vivre en ce moment.
Ursula von der Leyen n'était pas le premier choix de non seulement Madame Merkel, mais de personne finalement. Il a fallu trouver un compromis.
Et ben, on n'a pas les candidats du premier tour, mais la ministre de la Défense est aujourd'hui proche d'Angela Merkel. Donc Angela Merkel peut aussi trouver qu'elle triomphe dans ce choix.
Franck Tapiro, cette Europe décidément nous vend du compromis, de l'équilibre, de la douleur, de la difficulté. C'est jamais simple.
Hein. Dans son mode de scrutin d'élection, dans son mode de fonctionnement, ça a toujours été cela. Malheureusement, ce que tout le monde attend d'ailleurs pour se réintéresser au projet européen, c'est de l'action. Ouais. Plutôt de l'action qui sorte un petit peu de ce cadre convenu. Et c'est vrai qu'on a besoin de choses un peu différentes. Moi, ce qui m'a le plus plu, en fait, de ces dernières 48 heures, c'est la petite crise de nerfs de Macron hier.
Voilà, c'est ça.
Là, je me suis dit, tiens, enfin, quelqu'un s'énerve à Bruxelles. Mais c'est pas possible, c'est un bug, c'est un imitateur, c'est Canteloup. Non, c'est le président français. Je me dis, si tout le monde pouvait le suivre, je me dis, tout le monde s'énerverait un peu, tout le monde sortirait un peu de sa zone de confiance, tout le monde prendrait des risques, et enfin, on intéresserait le peuple européen, les 350 millions, à l'Europe. Ouais. Et c'est pour ça, il se passe que les choses lénifiantes en Europe depuis 30 ans, je parle à Bruxelles, voilà pourquoi on n'intéresse pas les gens. Un peu de passion ferait du bien. Moi, je pense que finalement, cette double coïncidence, parce que maintenant, ça arrange tout le monde, on a 2 femmes, on est content, je vous ai répété que j'aurais préféré d'abord au premier tour, ça va peut-être aussi donner à VDL et CL, hein, parce que je préfère travailler en acronyme, VDL et CL, un peu plus de coups des franches. Et peut-être qu'elles vont surprendre. Et moi, je leur souhaite de surprendre, parce qu'enfin, on va avoir un projet européen qui va surprendre les Européens.
Yasmina Chaffard, sur ce coup de sang du président français hier, est-ce que nous sommes dans de la posture ou il y a quelque chose qui respire un petit peu?
Non, justement, ça faisait longtemps qu'il avait ça dans son escarcelle et qu'il avait envie d'indiquer que les choses allaient changer. Comme je disais tout à l'heure, ça fait vraiment 2 ans qu'il a envie d'être le roi du monde, en tout cas en Europe, et il a réussi aujourd'hui à l'être. Et quand on entend le sonore qu'on a entendu tout à l'heure, on se rend bien compte qu'il se gausse, qu'il est content, que hier il était en colère, mais qu'aujourd'hui il y a quelque chose de réussi dans la façon qu'il a d'imposer ses vues, et il arrive à imposer ses vues. C'est très difficile en Europe, qui est une Europe un petit peu fermée, sclérosée, avec des habitudes assez lourdes, et avec une Madame Merkel qui est vraiment en fin de parcours et qui a du mal à se défendre. Donc la prochaine personne avec qui il pourra discuter en remplacement de Madame Merkel, il lui annonce déjà la couleur en disant bon, le chef c'est moi.
Naya Latrousse, les dossiers prioritaires de cette nouvelle commission, on l'a dit, il y a les migrants, évidemment, avec la crise du Cibotch actuellement. Il y a également peut-être des questions relationnelles avec, on va dire, les pays de Visegrad, ceux qui sont plus à l'Est et qui sont un petit peu lésés, un petit peu à part dans cette union.
Dans le pour ce rôle-là précisément, la personnalité de Charles Michel semble tout indiquer. Il avait réussi avec une... au final, un parlement assez hétéroclite en Belgique a composé une coalition. D'ailleurs, on lui avait un peu tapé dessus parce qu'il avait intégré des populistes du NVA dans sa majorité. Il avait réussi à faire tenir ce gouvernement jusqu'au pacte de Marrakech en décembre dernier. Il a vraiment le profil du conciliateur. La tâche de Josep Borrell à la diplomatie me semble un peu plus compliquée, parce que quand on regarde aujourd'hui sur les grands dossiers internationaux, l'Europe, très clairement, peine à parler d'une seule voix, que ce soit sur l'Iran, Federica Mogherini. Bon, alors peut-être cela dépendait-il aussi de l'agenda, c'est-à-dire qu'elle arrivait en fin de mandat et elle ne se sentait pas d'assumer un dossier qui allait durer sur plusieurs années. Mais sur la crise libyenne, l'Union européenne n'a pas été non plus extrêmement à la pointe. Dans les troubles pacifiques, États-Unis, Corée du Nord, États-Unis, Chine... on a l'impression d'être un petit peu marginalisé, donc ça m'intéresse de voir comment notre nouveau chef de la diplomatie européenne peut s'en sortir. Sur les migrants, cela dit, on est dans un problème interne à l'Union européenne. Enfin, là-dessus, objectivement, en discutant aujourd'hui avec des camarades italiens, notamment sur l'idée de Matteo Salvini, sur le refus du Sea-Watch, etc., mes camarades italiens, pourtant démocrates, me disaient, pas grand monde ne s'est précipité non plus pour accueillir le Sea-Watch sur ses rives.
Et Marion Mourgue, cette Europe, ces européennes, on avait l'impression qu'on allait accoucher peut-être d'un nouveau système, un nouveau souffle. Est-ce que vous avez la sensation ce soir, est-ce qu'on peut dire que nous allons peut-être partir sur des bases un petit peu différentes de ce qu'on a connu auparavant?
C'est peut-être trop tôt pour le dire.
C'est trop tôt.
Ce qu'on voit, c'est qu'un fonctionnement à 28 est quand même très compliqué. On a une structure qui était plutôt juridique et administrative que politique. Or, aujourd'hui, c'était des décisions politiques. Et là, ça devient très compliqué quand il faut attendre un consensus de 28 pays. Et donc, on arrive peut-être au bout de ce système-là.
Ça restera ensuite le problème éternel.
On va déjà peut-être passer à 27.
Donc. Déjà avant d'être à 27, bien avant.
Que dites-vous,
Jean Tapiro? Déjà, c'était compliqué, mais alors maintenant, c'est...
Allez, il est 20h40 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
L'Allemande Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, la Française Christine Lagarde, patronne du FMI, hérite de la Banque Centrale Européenne. Deux femmes sont proposées à 2 des 4 postes clés au sein de l'Union. Les chefs d'État et de gouvernement sont tombés d'accord ce soir après 3 jours de tractation à Bruxelles et une interruption de leurs travaux hier matin. Le projet d'accord de libre-échange entre l'Europe et les pays du Mercosur, dont le Brésil, inquiète. Les agriculteurs français sont ce soir dans la rue. Ils craignent l'importation dans l'Hexagone de produits aux normes moins strictes que celles édictées par la France et l'UE. 112 voix pour, 48 contre et 14 abstentions. Le projet de loi sur l'école définitivement adopté ce mardi à l'Assemblée nationale. Ce texte prévoit la scolarisation obligatoire des 3 ans à partir de la rentrée prochaine. La disposition aussi de drapeaux dans les classes, entre autres. Le président russe réclame une enquête après la mort de 14 marins aujourd'hui dans un sous-marin de recherche de l'armée. Un incendie s'est déclaré à bord. Les occupants décédés ont été intoxiqués par la fumée.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous avons évoqué la nomination de Christine Lagarde, donc qui est actuellement à la tête du FMI et qui va rejoindre la Banque Centrale Européenne. Eh bien, le président Emmanuel Macron s'est réjoui de sa nomination.
L'appréciation qui a été celle du Conseil est que Mme Lagarde a en effet toutes les compétences et les qualités requises pour diriger la Banque Centrale Européenne. Elle a été pendant plusieurs années ministre de l'économie et des finances, à une époque particulièrement difficile, en affrontant des crises, en particulier la plus grande crise financière et de dette souveraine des dernières décennies. Elle a ensuite été à la tête du Fonds monétaire international, ce qui me paraît qualifié très profondément pour avoir les qualités requises, d'une part pour maîtriser la politique monétaire, d'autre part pour avoir une crédibilité face au marché.
Marion Mourgue, Christine Lagarde, qui avait occupé le même poste que celui d'Emmanuel Macron à Bercy. C'est une personnalité qui, au fond, paraît assez logique à ce poste.
Oui, elle a les compétences, surtout quand elle vient d'exercer deux mandats au FMI, donc elle sait faire, elle est polyglotte, elle est reconnue comme sachant faire et sachant aussi négocier. Ça fait partie du travail, c'est-à-dire que c'est pas simplement des sujets techniques, il y a une partie politique. Donc c'est quelqu'un de capé à ce poste.
Oui, et il faut préciser aussi d'ailleurs que Ursula von der Leyen est également polyglotte puisqu'elle parle l'anglais et le français couramment. Yasmina Jaffar, le parcours de Christine Lagarde n'a pas été simple puisqu'il faut rappeler qu'elle avait été condamnée il y a 3 ans pour négligence par la CJR, la Cour de justice de la République, dans l'affaire de l'arbitrage Tapie, mais dispensée de peine. Elle est, on va dire, sortie de cette affaire. Elle peut poursuivre aisément cette carrière, cette personnalité française à la tête de la BCE. C'est une bonne nouvelle pour la France au sein de l'Union.
Oui, c'est une bonne nouvelle pour la France, c'est une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron. Il est content, heureux, parce qu'il a réussi à placer quelqu'un, une femme. Je pense que pour lui, ça compte, parce qu'on sait qu'il avait dit pendant sa campagne, ça sera le quinquennat de l'égalité.
On peut modérer, parce qu'à l'Assemblée et dans d'autres postes, il n'a pas mis de femme.
Non, donc c'est sûr. Et elles sont secrétaires d'État. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est dans son discours, donc c'est important pour l'affichage, en tout cas. Et puis, c'est un talent, tout de même. Donc, on ne peut pas revenir, en tout cas, sur le parcours qu'elle a eu, puis suite à l'affaire qui est la sienne. Il n'y a pas eu d'effet secondaire, on va dire. Donc, elle a la légitimité pour le faire et la justice ne pourra pas l'empêcher de le faire puisque c'est derrière elle maintenant.
Naya Latrousse, on a reproché à cette Europe, ça a été un des leitmotifs de la campagne des Européennes, de ne pas parler, si vous voulez, à ses citoyens ou aux Français comme aux autres peuples qui la composent. Est-ce que vous avez la sensation que ces nominations, par-delà la féminisation des postes, finalement parlera un peu plus aux gens aujourd'hui?
Je ne suis pas sûre que ce soit un problème de personnalité. Le fait de s'identifier ou non à l'Europe ou à l'Union européenne. On est dans une incarnation aujourd'hui de la puissance. Si on regarde à l'échelle géopolitique, on parle plus des États-Unis, on parle de Donald Trump, on parle plus de la Chine, on parle de Xi Jinping, on parle plus de la France, on parle d'Emmanuel Macron. Et le problème de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne, d'abord, est peut-être trop incarnée par les chefs d'État et pas assez par ceux qui sont censés la représenter. Et peut-être que jusqu'ici, par ailleurs, ceux qui étaient censés la représenter, les différents commissaires, le président de la Commission, le président du Parlement, etc., n'avaient pas assez de charisme. Est-ce que ça peut changer ? Je n'en sais rien. Christine Lagarde, avec tous les talents qu'on lui connaît, la carrière également dans le privé extraordinaire qu'elle avait faite avant d'arriver au ministère dans un grand cabinet d'avocats aux États-Unis, demeure malgré tout limitée par un mandat de la Banque Centrale Européenne. Donc elle fera ce que les textes l'autorisent à faire et elle agira dans les limites que les statuts de la BCE lui fixeront.
Franck Tapiro, sur les incarnations désormais à la tête de cette union, cette commission renouvelée et ces postes clés, vous avez la sensation qu'au fond on est toujours dans quelque chose d'assez technocratique?
Non, parce que, bon, bien entendu, je vais avoir du mal à parler de Christine Lagarde étant donné que je suis fan de la première heure de Christine Lagarde, avant d'ailleurs qu'elle ait son poste de ministre. C'est quelqu'un que vraiment j'ai toujours énormément apprécié et qui a à la fois le talent, la simplicité et l'efficacité et surtout une passion, un engagement que peu de gens justement en politique ont. N'oublions pas que Christine Lagarde, il y a encore quelques années, beaucoup de gens voyaient en elle peut-être une future présidente de la République. Oui. Tout le monde voyait qu'elle avait une forme à la fois de charisme, et surtout parce qu'elle ne sortait pas de, on va dire, cette énarchisation et cette technocratisation de la politique, et qu'elle avait justement sa façon à elle de le faire. Maintenant, je serais tenté de dire, elle a une passion extraordinaire, espérons qu'elle la garde en Europe.
Ah, c'est un très joli jeu de mots, vous l'avez préparé avant l'émission, j'en suis
non, je l'improvisais, mais parce que, d'accord. C'est vrai, on peut, d'avoir un grand talent comme elle, encore une fois, ce poste-là, avec cette machine à broyer du talent qu'est l'Europe, malheureusement, depuis quelques années, pas en termes de projet, mais en termes d'organisation, espérons justement qu'elle garde cette détermination et qu'elle fasse un peu bouger les choses. Avec un Emmanuel Macron, c'est clair, qui se positionne maintenant comme le nouveau patron de l'Europe, vu que Angela Merkel est quand même sur le départ, c'est clair. Voilà, aujourd'hui, on a un tandem entre Emmanuel Macron aussi et Christine Lagarde, VDL fait partie d'un trio. Mais il y a aussi un tandem, n'oublions pas, qui est plus fort aujourd'hui que le tandem allemand.
Alors tout à l'heure, Naïla Latrousse, vous évoquiez le problème des migrants en Europe. Ça fait partie des dossiers prioritaires qui sont sur la table de façon, on va dire, permanente des dirigeants européens qui vont devoir s'emparer donc de ce dossier. Et notamment, nous sommes en pleine crise du Sea-Watch. Écoutez les mots ce matin, ou réécoutez les mots de Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, à propos de Matteo Salvini. C'était sur BFM TV.
L'Italie n'est pas un pays indigne, mais le comportement de Monsieur Matteo Salvini n'est pas un comportement qui est acceptable, de mon point de vue, sur les sujets migratoires, parce que, et je l'ai déjà dit, il est dans une situation, dans une stratégie d'hystérisation qui consiste à monter en épingle un sujet qui est un sujet qui est douloureux, qui est un sujet qui est complexe, et pour lequel l'Union européenne et la France ont été solidaires vis-à-vis de l'Italie.
Alors ce soir, Yasmina Jaffari, il y a une forme de soulagement, on a les noms, on a les 28, on a les dirigeants, c'est fait, c'est plié, et il y a quand même des problèmes qui sont imminents, permanents sur la table, notamment la relation avec l'Italie à propos du sort des migrants.
Exactement, et elle a dit aussi ce matin, Sibeth Ndiaye, en propos de M. Salvini, qu'il instrumentalisait les vies, et il y a une vraie instrumentalisation dans sa volonté de faire ce fameux mur de 243 mètres, kilomètres, et que si c'était que mètres, et qui coûtera 2 milliards d'euros entre la Slovénie et l'Italie. Donc, il y a un trio là qui est assez incroyable entre Orban, Trump et Salvini. J'ai envie de dire le bon, la brute et le truand, mais je cherche encore le bon en fait. Je ne sais pas où il est. C'est assez incroyable d'avoir.
Changer la lettre du démarrage de bon, mais c'est pas.
Oui, c'est incroyable de voir cette volonté de mur qui est une démagogie absolue parce que Monsieur Salvini a réussi à remonter dans les sondages en termes de cote de popularité parce que il a été très clair avec l'arrêt, pour ne plus accepter les bateaux. Du coup, il n'y a plus de migration massive chez lui et il utilise cette idée de mur pour pouvoir continuer dans cette démagogie et ça n'est pas du tout entendu.
Marion Bourg, il va falloir se parler au sein de l'Union européenne pour des migrants.
Oui, puisque c'est un sujet qui ne pourra se régler que à 28 et peut-être après à 27, mais qui ne peut pas se régler par un ou un seul pays ou deux pays, qui est des désaccords et finalement presque une rupture de dialogue entre la France et l'Italie, ça va compliquer la gestion de ce dossier. Surtout que à partir du moment où Matteo Salvini a essayé de fermer un peu les portes de l'Italie, on voit que les flux se sont transportés vers l'Espagne. Donc la question migratoire reste toujours d'actualité en Europe.
Naïla Latrousse, quand vous entendez la porte-parole du gouvernement français dire du vice-président du Conseil italien et ministre de l'Intérieur, M. Salvini, qu'il n'est pas à la hauteur, peut-être qu'il faudrait se parler différemment au sein de l'Union européenne.
C'est assez peu diplomatique. C'est sûr que Mario Salvini, en fait, n'est pas non plus un Européen convaincu, europhile patenté. Son discours remet en cause l'Union européenne, mais depuis même son élection. Et Mario Giro, ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères en Italie, après sa défaite, avait d'ailleurs poussé ce cri d'alarme en disant mais la victoire de Salvini, c'est la faute de l'Europe. Parce que si on n'avait pas été abandonné au moment où on réclamait la réforme du règlement Dublin qui fait que on dépose sa demande d'asile là où on arrive, on n'aurait pas aujourd'hui effectivement un populisme aux frontières de la France et en l'occurrence dans l'un des pays fondateurs de l'Union européenne. On est extrêmement mal placé pour donner des leçons à qui que ce soit par ailleurs, parce que je rappelle que nous avons nous-mêmes refusé un certain nombre de bateaux en disant
c'est le point de départ de la brouille avec l'Italie. C'est le refus de la France.
Ça arrive un peu avant les élections italiennes en l'occurrence. Je rappelle aussi qu'on est le pays qui a voté l'augmentation des frais de scolarité des étrangers non communautaires, qu'on est le pays dont le ministre de l'Intérieur s'est récemment félicité à l'Assemblée nationale d'avoir serré les visas et d'avoir durci la politique de visa. Donc je vois pas très bien en matière de politique migratoire, en réalité, de quel droit on se permet de donner des leçons à tout le monde.
Allez, nous restons sur ces nominations au sommet de l'Union européenne. Nous sommes un petit peu bousculés par l'actualité ce soir. Vous l'avez compris, tout cela a pris un petit peu de retard. 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
Les parents de Vincent Lambert se sont rendus ce soir à son chevet au CHU de Reims. Les médecins ont aujourd'hui commencé à arrêter les traitements dont bénéficie l'ancien infirmier plongé dans un état végétatif depuis plus de 10 ans. Le comité onusien pour le droit des personnes handicapées appelle en urgence la France à maintenir les soins apportés à Vincent Lambert, cela à titre conservatoire. Le gilet jaune Jérôme Rodriguez et Bornier va entamer une grève de la faim devant le ministère de l'Intérieur. Il souhaite par son geste demander qu'on lui remette remettent les conclusions de l'enquête de la police des polices, l'IGPN. Jérôme Rodriguez a perdu un œil lors d'une manifestation en janvier dernier à Paris. Il met en cause les forces de l'ordre et leurs lanceurs de balles de défense. Les organisateurs de Garo Rock lancent un appel à la prudence et à la vaccination. Un spectateur atteint de la rougeole a assisté le week-end dernier à Marmande au festival. 160 000 personnes participaient à l'événement. La rougeole est une maladie très contagieuse. Enfin, le mondial féminin de football, première demi-finale ce soir à Lyon entre l'Angleterre et les États-Unis, tombeuse de la France en quart. Coup d'envoi de ce match dans 10 minutes maintenant.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Franck Tapiro rappelait tout à l'heure le coup de gueule hier matin. Ça semble une éternité d'Emmanuel Macron au sortir de l'échec des premières heures de négociation. Le chef de l'État est revenu tout à l'heure dans sa conférence de presse sur ce problème des délais pour prendre des décisions.
Je me félicite que les critères que j'avais posés deux jours après les élections européennes, que nous puissions être efficaces et décider le plus rapidement possible, puissent in fine, malgré les attentes et les difficultés de dimanche et lundi, être remplies. En effet, jamais le Conseil européen n'avait désigné aussi rapidement l'équipe intégrale. Je rappelle qu'il y a 5 ans, nous avions mis plus de 3 mois à désigner en particulier le président du Conseil et le haut représentant.
Franck Tapiro, donc ces délais, finalement, on oublie tout ça, c'est ça. C'est-à-dire que là, tout redevient normal aujourd'hui à Bruxelles. Voilà.
On est dans un air du reset permanent. Les problèmes d'hier sont les opportunités de demain. On a vu la preuve. Regardez, en 24 heures, d'une mauvaise nouvelle, on en fait une excellente. Pire, une opportunité et même un signe. Hein, avec cette parité à la tête de l'Europe, c'est extraordinaire.
Exactement, quand il a perdu les européennes, mais qu'il a gagné au final.
Ah bon, on me dit, la communication n'a rien à voir avec la politique, mais heureusement qu'il y a de la com. Sinon, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ben voilà, on s'est planté. Bon, bah, on en a trouvé deux qui veulent bien. Non, mais voyons. C'est de la com, c'est du marketing.
Vous dites, vous dites quoi? Que c'est de la com ce soir?
Mais évidemment que c'est de la com. Aujourd'hui, c'est que de la com. Ce sera une réalité politique demain. Ouais. Aujourd'hui, ouais. C'est que de la com, et c'est très bien. Parce qu'hier, je peux vous dire, c'était de la com plutôt négative. Parce qu'un chef d'État qui gueule à juste titre, en réveillant, en disant, mais nom de Dieu, mais vous vous rendez pas compte, c'est un suicide permanent, cette Union européenne. C'est-à-dire que les gens vont voter de moins en moins, personne ne croit à ce projet, personne ne comprend rien, on a raté le projet populaire, on a des élections quand même qui sont un signe, même si En Marche s'en sort plutôt pas mal, on a des populistes un peu partout, et puis quoi encore? Donc, vite, réveillons-nous, en 24 heures. Donc, bonne nouvelle, puisque au final, on a deux grands talents. Et donc, ils réécrivent l'histoire, c'est du storytelling, hein. C'est de la communication.
Que nous vivons en direct.
Voilà. Et si demain, je pense, moi, je suis plutôt un bon feeling avec VDL et CL, si elles font un bon boulot, vous verrez que dans quelques temps, on se dirait, ben, vous voyez, comme quoi on s'est complètement trompé dans le mode de scrutin, parce que on en a pris deux, en 24 heures, il fallait qu'on trouve quelqu'un. C'était du marketing, mais finalement, peut-être qu'elles auront tellement les coudées franches, parce qu'elles n'ont pas été choisies réellement et voulues, qu'elles auront peut-être plus la volonté et le désir et l'engagement, j'espère, pour bouger un peu les choses de l'intérieur. Ça ferait vraiment du bien, Laurent.
Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, VDL, dans le langage de Franck Tapiro, c'est Ursula von der Leyen. Voilà. Et c'est elle, c'est Christine Lagarde. Yasmina Jaffar, vous dites bien, comme également.
Exactement. Hier soir, c'était de la communication et il a voulu vraiment appuyer sur, avec un ton très précis pour se faire entendre et se faire entendre aussi de l'intérieur parce qu'il n'oublie jamais la France. Et quand il a perdu les européennes, parce que même si c'est à quelques voix près, il les a quand même perdues, il en a fait une réussite absolue après, alors qu'il avait une candidate complètement hallucinante avec un casting. Madame Loiseau, on s'en rappelle encore. Et il a réussi à retourner les choses de la même manière avec les Gilets jaunes, en faisant les grands débats, et il a réussi à retourner la chose. Donc il arrive à retourner absolument tout à son avantage. C'est un professionnel de la communication. Il est fasciné par Barack Obama depuis longtemps. Il a absolument tout fait pour avoir, pour être au plus proche de ses pensées, tout en faisant penser qu'il est proche des citoyens. Mais c'est d'abord lui qui le sert.
C'est de l'aïkido, hein, d'ailleurs.
Que dites-vous,
Franck Tapiro? On prend le négatif, on prend la force de l'adversaire, on prend l'adversité, on la retourne de façon positive. C'est un talent de communicant.
Complètement.
Pas que de politique.
Non, c'est un talent de communicant. Même s'il y a eu des erreurs de petites phrases, il y a de ça.
Mais il a la trousse dans les jours, les semaines qui viennent, les dossiers qui vont s'inviter à la table, on va dire, franco-européenne. C'est-à-dire, on a tout ce qui concerne le climat, on a tout ce qui concerne les migrants, on a le Mercosur. En fait, les dossiers arrivent en escadrille.
On a la situation économique en France aussi, qui va être un énorme point dans les mois à venir. On a échappé à la procédure de sauvegarde en raison d'une dette qui explose les plafonds. On n'est pas loin des 100%, 99 et quelques, 6,4 de mémoire. La question va être de voir est-ce qu'on réussit à négocier des marges budgétaires aussi. Je parle vraiment du simple point de vue français, hein, des marges budgétaires sur le prochain budget, celui pour 2020, en expliquant que bon, on a eu les gilets jaunes, c'est compliqué, on peut peut-être s'éviter les critères de Maastricht cette année ou pas, ou de voir est-ce que effectivement l'agenda strict orthodoxe, ouais. libéro-orthodoxe ou ortho-libéral, je sais plus comment on dit, sera appliqué avec rigueur. Ce soir, on semble s'en féliciter. Hein. C'est une ligne claire, libérale, qui est définie. On verra comment on s'en arrange.
Et les mots de la fin avec vous, Marion Mourangue.
Ouais, surtout, il y a le gros dossier du Brexit qui arrive dès le 31 octobre. Et est-ce que les Européens feront justement front commun ou pas, ou est-ce qu'il y aura des divisions et des dissensions, ça va être un gros dossier.
Voilà, nous sommes restés donc ce soir en édition spéciale dans les informés de France Info, après la déclaration, le discours d'Emmanuel Macron à la suite de ses nominations à Bruxelles. Marion Mourgue, quelle sera la une demain du Figaro, j'imagine.
Voilà, vous avez bien imaginé, on revient sur les nominations européennes et ces deux femmes qui prennent le pouvoir en Europe.
Naïla Latrousse, la une de Jeune Afrique.
Alors la une de Jeune Afrique sur la semaine à venir, c'est comment la Tunisie lutte contre le terrorisme après la double attaque de la semaine dernière.
Yasmina Jaffar, que nous proposez-vous sur laruchemedia.com?
La Ruche Média revient avec force et vigueur en rappelant ce que Donald Trump a joué comme rôle dans l'affaire des 5 du Central Park en mettant en avant la série Netflix.
Et Franck Tapiro, vous avez une poignée de secondes pour nous expliquer ce qu'est le chef emotional officer de Datacalab.
Datacalab, c'est une start-up de BrainTech. On fabrique des algorithmes pour mesurer les émotions et les comportements des gens face à une expérience de contenu. Donc là, en filmant, dans l'image, on arrive à détecter les points du visage qui détectent vos émotions. Bien entendu, jamais à l'insu de votre plein gré, mais avec votre accord. Ça nous permet d'optimiser les contenus et surtout d'adresser de façon plus émotionnelle les gens.
Franck Tapiro, le robot, merci. 20h58 sur France Info, c'est la fin des informés. Je vous retrouve avec bonheur demain soir pour une prochaine édition. Bonne soirée.